Seigneur, content d'être avec vous. C'était un bon temps. Merci à mon frère pour de nous avoir l'idée comme ça dans la louange, parce que ce matin, j'ai vraiment à cœur de vous parler de la louange et de l'adoration. Vous savez, donc, on continue dans cette série de messages sur les fondamentaux. On a vraiment senti avec l'équipe de responsables que Dieu nous appelait à revenir au béaba. Peut-être que pour certains, c'est nouveau. Peut-être que pour certains, c'est du déjà entendu, mais on a besoin de revenir aux fondamentaux. Je ne vais pas tous les citer parce que je ne me rappelle pas de tout, mais je sais qu'on a eu des enseignements sur la prière, sur la parole de Dieu, sur merci fraternel, paidez-moi, sur quoi encore ? C'est quoi les fondamentaux ? Bon, alors, les messages sont sur le site internet, sur recharger ça. Batterie, Mathieu nous a parlé de ça, et plein d'autres choses, faire des disciples aussi. Et je sentais que c'était important de revenir sur ce fondamental, sur ces fondamentaux que sont la louange et l'adoration. Je veux vous le redire, je le dis souvent, mais la louange et l'adoration, c'est pas que pour ceux qui chantent juste, c'est pas que le chant aussi, je vais y en parler, mais c'est pour chacun d'entre nous, toute l'Église est concernée. Vous savez, nous avons été créés pour rendre gloire à Dieu, pour lui rendre louange et adoration, parce qu'il est digne de nos louanges. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous, hommes, femmes, chacun, vraiment toute l'Église, le corps de Christ, on est là pour adorer Dieu, pour adorer Dieu. Qu'est-ce que la louange et l'adoration ? La louange, c'est le fait d'honorer, encenser, dire du bien de quelqu'un pour qui il est ou pour ce qu'il a fait. On peut rendre louange aussi des fois à un homme, dire « Waouh, cet homme ou cette femme, c'est beau, waouh, tout ça ben, », c'est une sorte de louange. Et nous, on croit que, et c'est ce que la parole nous y enseigne, de rendre gloire à Dieu et de dire ses louanges. Sa louange sera toujours sur mes lèvres, que jour et nuit, qu'on puisse rendre gloire à Dieu, dire « Seigneur, merci pour tes bontés, merci pour ta fidélité, merci Seigneur parce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde », c'est ce qu'on a chanté. Tout ça, c'est donc on rend louange à Dieu. Et qu'est-ce que l'adoration ? L'adoration, c'est, on va encore plus loin. L'adoration, il y a cet abandon à Dieu de dire, ben, Seigneur, je reconnais que tu es maître, que tu es mon maître, que tout me vient de toi. Alors Seigneur, je peux faire qu'une chose, c'est m'agenouiller, c'est me prosterner devant toi et t'adorer, vraiment de lui donner ma dévotion, de adorer Dieu. Vraiment, il y a cette idée de se prosterner et vraiment d'abandonner ma vie entre les mains de Dieu. Et c'est pas neutre du tout. On fait pas ça à n'importe qui. Il y a d'autres dieux qui sont adorés, mais nous, on veut adorer l'Éternel des armées, celui qui est, qui était et qui sera, le Dieu d'éternité. Et l'adoration, c'est pour tous ici, parce qu'on a besoin de s'abandonner à Dieu. C'est dur des fois, parce qu'il y a notre fierté, il y a notre orgueil qui veut dire, ben moi, je veux mener ma vie de moi-même, je veux faire ce qui me plaît. Mais Dieu t'appelle à fléchir le genou. Et Dieu veut te rappeler que l'humilité précède la gloire. Humilie-toi devant le Seigneur. Adore-le. Et lui, il va conduire ta vie. Et lui va t'amener vers le meilleur. Parce qu'il a le meilleur pour chacun d'entre nous. Alors pourquoi on loue Dieu et pourquoi on adore Dieu lorsque nous nous rassemblons ? Peut-être que si tu es nouvellement converti, tu te poses peut-être la question. Mais pourquoi on passe 30 minutes, 45 minutes, des fois plus à chanter et à louer Dieu, mais en fait tout simplement parce qu'il y a tellement de raisons de louer et d'adorer Dieu. Il faut savoir, que tu le crois ou pas ce matin, mais si tu respires à cet instant précis, c'est parce que Dieu te le permet. C'est lui qui nous a créé tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons ou pensons posséder nous vient de lui. Toutes nos sources sont en Dieu, c'est un verset de la Bible. Et pour ça déjà, pour qui il est, pour son amour, pour sa bonté, toutes ces raisons-là nous poussent à le louer. Et on est appelé à le louer chez nous, dans notre intimité, vraiment, comme le dit la parole, lorsque tu fermes ta porte, loue le Seigneur, avec tes enfants, avec ta femme, ton mari, mais aussi en communauté. Il y a une puissance, vous voyez, quand la louange communautaire, quand on se rassemble là, ensemble, et qu'on élève le nom de Dieu, waouh, c'est comme si Peter nous parlait de ça il y a quelques semaines. Quand on est seul ou deux, bien sûr que Dieu est là. Mais quand on est ensemble, c'est comme si on faisait bloc. Et quand on proclame des choses, on a l'impression d'être un peu invincible. Quoi qu'il se passe, on est là, on proclame le nom de Dieu. Et il y a des choses qui se passent. Nous croyons que quand nous louons le Seigneur, nous construisons comme un lieu spirituel où Dieu où Dieu prend plaisir à venir siéger. Psaume 22 eh bien, nous dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Quand on élève son nom, quand on le loue comme ce matin, qu'est-ce qui se passe? Il y a sa présence qui vient. Et je vais en parler un peu plus tard. Mais c'est extraordinaire. Quand si le roi de gloire vient, alors nous serons transformés de gloire en gloire à son image. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nos vies seront transformées afin que nous impactions le monde autour de nous par la puissance de Dieu. Adorer Dieu ne se passe pas que le dimanche matin par nos chants ou par nos danses, mais des actes d'adoration peuvent être faits à chaque instant dans nos vies. C'est une attitude de cœur. Vous savez que Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à ce qui frappe le regard, mais Dieu regarde au cœur. Et ce qu'il recherche, c'est des adorateurs qu'il adore en esprit et en... C'est ça que Dieu regarde. C'est pas savoir si tu chantes magnifiquement bien, si tu danses très bien, parce qu'il y a plein de façons d'exprimer notre louange par la peinture, par le dessin, par le marteau-piqueur aussi. C'est un acte d'adoration, de dire ben, « Seigneur, voilà, je viens servir ton royaume, je viens, Seigneur, faire ta volonté. » Mais Dieu regarde au cœur. Et nous, on peut des fois se laisser tromper par quelqu'un, ou dire ouais, « c'est beau, c'est si ». Non mais Dieu voit tout. Dieu, il est omniscient, il est omnipotent, il sait toutes choses. Et ce qu'il recherche, c'est des cœurs qu'il adore, c'est des cœurs vrais. Dire « Seigneur, me voici tel que je suis, je te rends ma louange, Seigneur, je te rends gloire et honneur, que toute ma vie te glorifie. » Jean 3, verset 23-24, je vous invite à prendre vos Bibles. Alors vraiment, je veux le rappeler, c'est important. J'avais prêché sur la parole de Dieu, vous pouvez retrouver le prêche sur le site. Mais vraiment, revenez à la Bible papier. Je ne vais pas dire qu'il y a sa Bible et il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas moins spirituel. Mais je vous encourage, Dieu nous a parlé en équipe, sans qu'on se soit concerté, de revenir à la parole de Dieu papier. Je ne dis pas que le smartphone n'est pas bon ou quoi, mais vous savez, de lire la parole quand on la lit, c'est important de sonder les Écritures. Donc je vous encourage, si on pouvait le dimanche matin tous ici venir avec notre Bible pour les réunions aussi, que ça soit comme, notre ustensile important. Et Dieu m'a vraiment repris quand je pars en voyage, c'est la dernière chose à laquelle je pense. Je pense à mes habits, je pense à plein de choses. Et puis d'un coup, je dis, ah mince, ma Bible. Mais j'ai vraiment envie, Seigneur, que c'est ma prière et c'est ce que Dieu m'a dit, que la Bible soit ma priorité. Parce que la parole de Dieu, c'est celle qui fait autorité dans notre vie. La parole de Dieu, c'est celle qui amène la foi. Ce matin, on a prié pour les malades. Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les amis, soyons des hommes et des femmes qui lisons leur Bible, qui sondons les Écritures, qui allons vraiment scruter qu'est-ce que la parole de Dieu veut dire. Et nous allons devenir des hommes et des femmes matures en Christ. Amen. Donc, prenez votre Bible, Jean 3, verset 23. Jean 3, verset 23, qui nous dit... Alors, je me suis trompé de référence, mais c'est pas grave. C'est pas Jean 3, verset 23, mais je rechercherai, je me suis trompé. C'est quand il rencontre la Samaritaine. Ah non, c'était Jean 4, excusez-moi. Jean 4, voilà, verset 23. « Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » Et je ne vais pas rappeler tout le contexte, mais rapidement, c'est que Jésus rencontre cette Samaritaine. Donc vous savez qu'à l'époque, les Juifs et les Samaritains ne s'aimaient pas beaucoup, voire ils se détestaient. Et cette Samaritaine, elle dit, mais où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Mais il dit, mais en fait, peu importe, Jésus répond, mais peu importe le lieu, ce que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit et en vérité. Qu'est-ce que ça signifie en esprit et en vérité? En esprit et en vérité veut dire que notre vie doit être en accord avec ce que nous proclamons de Dieu et vivre conformément à ce qu'il nous demande. Il est saint, Dieu est saint, ça veut dire parfait, il n'y a pas de péché en lui, il est parfait. Et il désire que nous le soyons aussi. Nous ne pouvons prétendre adorer Dieu en esprit et en vérité alors que la réalité de notre vie intérieure est pleine de mensonges, de cupidité, de convoitise, de calomnie, d'orgueil, d'impureté, d'hypocrisie et de jalousie. Dieu recherche notre cœur. Il recherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Que ce que nous proclamons comme ce matin soit en cohérence et en conformité avec notre vie de tous les jours. Savez-nous que Dieu nous garde d'être des chrétiens du dimanche matin. Soyons vraiment des chrétiens, des disciples de Jésus qui vivons vraiment selon ce que dit sa parole du lundi jusqu'au dimanche. C'est à ça que le monde verra que Christ est Seigneur. Vous savez, donc on peut dire plein de choses à ton collègue de travail ou quoi, mais le meilleur témoignage, c'est toi. Sois un témoin là où Dieu t'a placé, sois un adorateur en esprit et en vérité, dire waouh, ce qu'il dit, il le fait. Et je peux vous dire que les actes touchent beaucoup plus que les paroles. Si tes paroles sont en conformité avec tes actes, tu vas être un témoin. Alors que s'il y a une discordance, tu vas perdre en crédibilité et il va dire, mais en fait, tu dis des choses que tu ne vis pas. Soyons ces adorateurs-là. Hébreux 10, verset 22 nous dit, approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et en tant qu'adorateur, en fait, quand on loue le Seigneur, et je sais que c'est ce que vous avez vécu pour la plupart vendredi soir, et bien, il y a eu ce moment où vous étiez tous à genoux, ou pour la plupart à genoux, et dans la repentance. Et en fait, quand on vient près de Dieu, près du Dieu Saint, qui est parfait, vous savez qu'il y a ces versets qui disent « rien d'impur dans la présence de Dieu ». C'est-à-dire que Dieu est parfait, il ne peut rien avoir impur, rien avoir d'impur dans sa présence. Et pour ça, c'est pour ça que plus tu loues le Seigneur, plus tu l'adores, et plus le Seigneur te conduit vers la repentance. La repentance, en fait, c'est un style de vie que le Saint-Esprit nous invite à avoir tous les jours de nos vies. Non pas comme une crainte, je dirais, oh là là, au secours, mais une crainte, une sainte crainte de Dieu. Dieu est Dieu. Et dire, Seigneur, pardon, pardonne-moi, Seigneur, pour ça. Pardonne-moi. Le Saint-Esprit va te révéler des choses dans ces temps d'adoration pour te repentir pour toi, ta famille, mais même ta nation. Ce matin, j'ai vraiment eu un temps avec le Seigneur où j'ai senti vraiment... Je me suis repenti pour certaines choses qu'on peut vivre en France, qu'on peut voir tout ce mouvement de violence ou quoi. Je ne rentre pas du tout dans le débat si c'est légitime, pas légitime, peu importe. Mais on sent ce côté rebelle en nous Français. Et vraiment, je me sentais dire Seigneur, mais pardon, pardon vraiment pour cette rébellion qui nous colle tant à la peau. On veut toujours dire oui, mais moi et si et ça. Et on veut toujours s'opposer à l'autorité. Il y a même un de nos partis qui s'appelle les Insoumis. Et pourtant, la parole nous dit le contraire, de se soumettre à la puissante main de Dieu. Et Seigneur, pardon, pardon pour cette insoumission et toujours de vouloir aller contre ce que tu nous dis. Seigneur, pardon, ne soyons pas des Jonas qui fuyons loin alors que Dieu nous parle. Dieu nous dit, fais ci, fais ça, pas pour nous embêter, pas pour nous rendre tristes, mais parce que sa volonté, elle est bonne, agréable et parfaite. Il a le meilleur pour nous. Soyons des enfants obéissants. Et pour ça, on a besoin de se repentir, de fléchir le genou et de dire, Seigneur, pardon, je veux faire demi-tour. Je marchais dans une direction comme Jonas. Je voulais fuir loin de toi, mais non, je veux marcher dans tes voies. Et c'est à ça que nous amène l'adoration. C'est à ça que nous amène ces temps en sa présence. Alléluia, Seigneur. Vous savez que la louange, l'adoration implique un sacrifice. Romains 12, verset 1, je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Un culte à Dieu implique souvent un sacrifice. Alors je le traduis pour nous aujourd'hui, ça demande un coût pour nous. Vous savez, dans ma lecture de la Bible en un an, pour ceux qui suivent cette super lecture de la Bible en un an sur YouVersion, on est à nombre. Et j'ai réalisé, j'ai dit, mais Seigneur, merci d'être venu, parce que le nombre de sacrifices que les Lévites devaient faire pour expier les péchés du peuple, pour ceux qui étaient impurs, parce qu'ils avaient touché un mort, parce que si, parce que ça, c'est impressionnant. Il y avait, tous les jours, il devait y avoir des taureaux, des béliers, il y avait des sacrifices de partout, parce que Dieu est saint. Ce n'était pas pour embêter le peuple, c'est que Dieu est saint et il ne pouvait pas avoir une once d'impureté dans le camp d'Israël. Et par Jésus, parce qu'il est venu, lui qui est le sacrifice ultime, on n'a plus besoin de faire ces sacrifices d'animaux. Alléluia, merci Seigneur. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ qui a coulé à la croix que nous avons aujourd'hui un libre accès à la présence de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu ne nous demande plus de sacrifice. Par contre, il nous appelle à ce que notre vie soit un sacrifice pour lui. Et je suis bien, et attention, ne me prenez pas, je ne suis pas en train de dire de vous donner la mort. Je suis en train de dire que ta vie doit être un sacrifice pour Dieu, c'est-à-dire que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et on est là en fait pour dire, Seigneur, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Je veux que ma vie, Seigneur, te glorifie. Je ne vis plus pour moi, pour mes propres désirs, pour ce que j'ai à cœur. Non, je vis pour ce que Dieu veut, sachant que Dieu a le meilleur pour moi et que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Mais l'adoration, la louange, ça a un coût. Tous ceux qui sont venus vendredi soir, je suis sûr que pour la majorité, ça a été un coup de laisser votre famille, peut-être, si vos enfants n'étaient pas là. C'était à 20h30, peut-être que vous étiez fatigué, vous sortiez d'une semaine très dense, très intense, et vous avez fait le choix de dire, Seigneur, me voici pour t'adorer et pour te louer. Et ça, je suis certain que c'est un sacrifice de bonne odeur au Seigneur. Et merci, Jonathan, il m'a rendu honneur, mais vous savez, quand je suis venu samedi matin, clairement, j'ai senti que ma place, c'était là-bas. Et pour moi, ça a été un sacrifice, un acte d'adoration, parce que je le répète que l'adoration, ce n'est pas que le chant, ce n'est pas que dans des soirées louanges, c'est tous les jours de notre vie, quand tu obéis à Dieu, eh ben, régulièrement, ça coûte. Moi, ça m'a coûté de venir samedi matin, mais je savais que c'était ma place. Et je suis tellement heureux de l'avoir fait parce que je l'ai fait pour Dieu. Je ne l'ai pas fait pour qu'on me rende de gloire, qu'on me dise « Waouh, bravo !» Non, j'ai dit « Seigneur, je veux t'honorer. » Et quoi que Dieu me demande, je veux dire « Seigneur, je suis prêt à te suivre partout où tu m'amèneras. » Parce que même s'il y a un coup, je sais que derrière, c'est le royaume de Dieu qui avance. Ce café va être en bénédiction pour Montélimar. Ce café va être en bénédiction pour des dizaines de personnes qui se sentent seules, qui ont besoin d'un bon café, de discuter, de parler. Et je le prophétise qu'il y aura des dizaines de conversions à travers ce café. Et ce camion de douche, c'est pareil. Tous les samedis matins, les amis, vous imaginez, j'en suis ému. Ils se lèvent, ils prennent le camion, ils vont vers ces SDF. J'ai un SDF dont je prends soin près de mon bureau. Ça sent pas bon. C'est pas toujours facile de discuter, ça parle pas forcément français, c'est pas évident, mais quel sacrifice! Mais Dieu le voit. Et plusieurs fois dans les prêches des semaines précédentes, il nous a été rappelé ces paroles que je veux redire, qui sont tellement, tellement importantes. Dans Matthieu 25, verset 40, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Voici un acte d'adoration, voici un acte de louange, dire Seigneur, je te rends gloire en t'obéissant, je te rends gloire Seigneur en prenant soin des pauvres, je te rends gloire Seigneur en faisant ta volonté. Et Dieu nous appelle chacun d'entre nous et je sens qu'on a besoin les amis de se repentir, je le répète, de cette rébellion et de cette volonté de vouloir marcher par nos propres forces pour nous. Dieu nous appelle à marcher pour lui, Dieu nous appelle à être des enfants obéissants et il est dit dans la parole que Dieu ne prend pas plaisir dans les sacrifices ou quoi, il prend le meilleur sacrifice pour lui, c'est l'obéissance. C'est ce sacrifice d'obéissance, dire Seigneur, je me soumets à ta volonté et je fais ta volonté Seigneur et non la mienne. Un autre exemple qu'on connaît peut-être moins, c'est un exemple de David, mais vous allez voir que ce passage est moins cité, je trouve, dans 2 Samuel 24, 18. Je vous invite à le prendre donc à le chercher avec moi, 2 Samuel 24, 18. C'est super intéressant, vous allez voir. Ce que David a fait. Il est écrit... Ce jour-là, Gad arriva chez David et lui dit « Monte, élève un autel à l'Éternel dans l'aire d'Arvna, le Yébousien. » David monta selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait ordonné. Aravna regardait d'en haut et vit le roi et ses serviteurs qui se dirigeaient vers lui. Alors Aravna sortit et se prosterna devant le roi, le visage contre terre. Aravna dit « Pourquoi mon seigneur le roi vient-il vers mon serviteur ?» Et David répondit « Pour t'acheter l'air et pour y bâtir un autel à l'Éternel afin que la plaie se retire du peuple. » Je fais très court, mais en gros, il y a une peste parce que David avait péché, parce qu'il avait fait un recensement qui ne lui avait pas été demandé par Dieu. Dieu lui fait choisir entre 3 châtiments et... David choisit donc qu'une peste pendant 3 jours et il y a des milliers et des milliers de personnes qui meurent. Alors David veut vite offrir un sacrifice à Dieu pour que cette peste s'arrête. Que mon seigneur, le roi, prenne l'air et qu'il offre ce qu'il semblera bon. Vois, le bétail sera pour l'holocauste et les herses avec l'attelage serviront de bois. Ô roi, Aravna donne tout au roi. Aravna dit encore au roi que l'Éternel, ton Dieu, te soit favorable. Mais le roi, David, dit à Aravna, non, je te l'achèterai en bonne et due forme et pour un prix. Je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes ou des sacrifices gratuits. David acheta l'air et le gros bétail pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de communion. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. Vous voyez, David, c'est magnifique. Vous connaissez que, vous savez que ce verset que l'on cite beaucoup plus souvent, que David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et David encore, il dit non, je ne veux pas, alors qu'on lui offre tout sur un plateau, l'endroit, les sacrifices, tout. David, il dit non, je ne veux pas offrir un sacrifice à Dieu qui ne me coûte rien. Et sachez-le, souvent dans notre vie, eh ben, je vous l'ai déjà dit, mais un sacrifice, ça coûte. Ça coûte parfois, ça prend du temps, parfois ça prend de l'énergie, ça prend de l'argent. Mais mine de rien, c'est comme, en fait, parfois donc, qu'on veut séparer le naturel du spirituel, mais les deux sont liés. Si j'offre un cadeau à Elodie qui ne m'a rien coûté, je l'ai eu gratuit, je l'ai reçu par la poste ou quoi, et je l'offre à Elodie et qu'elle apprend. Est-ce que vous pensez que ma femme sera contente? Oui, ouais, tu penses que oui? Moi, je pense que non. Moi, si je lui offre une belle bague et qu'elle apprend qu'on me l'a offert, je ne sais pas, que je l'ai eu dans un paquet surprise, elle ne sera pas très contente. Par contre, si elle sait que je suis allé chercher, que j'ai pris du temps, que je l'ai payé X dizaines, non, centaines d'euros, et que je l'ai honoré, elle va dire Waouh, mais ça me touche, mais merci mon chéri, mais merci, ça m'honore tellement que tu aies pris une matinée de ton travail pour aller chercher cette bague. C'est pas vrai, ma chérie? Ça l'honorera. Et pourtant, c'est peut-être la même bague, et pourtant, c'est peut-être le même prix, mais parce que ça m'a coûté, eh bien, c'est un sacrifice d'amour. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. On veut des fois dire, eh ben, là, c'est logique, et pour Dieu, ben non, je vais essayer que ça m'arrange, que ce ne soit pas difficile. Mais pétard, c'est la même chose. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est une relation d'amour qu'on a. Et si tu aimes, ben, tu es prêt à faire des sacrifices. Si tu aimes Dieu, si tu aimes ton couple, ton conjoint, si tu aimes tes enfants, tu es prêt à faire des sacrifices pour eux. Par amour, à combien plus forte raison pour Dieu. Soyons prêts à faire des sacrifices, si Dieu te le demande, pour l'honorer, parce qu'il est tellement bon, il est tellement merveilleux. Dieu mérite nos sacrifices, Dieu mérite nos louanges. Dieu avait compris qu'offrir un sacrifice qui ne lui coûtait rien n'était pas vraiment un sacrifice. Dans quel domaine Dieu nous appelle à offrir un sacrifice de louange pour lui? Est-ce que c'est peut-être dans nos finances? Es-tu prêt à donner par la foi si Dieu te le met à cœur? Peut-être dans le service, es-tu prêt à faire un service où Dieu t'appelle, même s'il te coûte? Ça peut-être être prendre soin de nos enfants derrière. Est-ce que c'est peut-être dans le soin des pauvres? Il y a cette œuvre extraordinaire, peut-être que Dieu t'appelle à rejoindre cette équipe et aller, si ce n'est pas tous les samedis matins, peut-être un samedi par mois, à aller pouvoir aider ces pauvres qui ne pourront jamais te le rendre, ces SDF qui ont besoin d'entendre parler de Jésus, qu'on leur offre un verre d'eau. Quand as-tu invité un pauvre chez toi ou pris soin d'un SDF malgré sa condition et son odeur peut-être? Dieu nous appelle à prendre soin des pauvres. Et je le répète, ce n'est pas que pour 10 personnes dans cette église, c'est pour chacun d'entre nous. Souvenez-vous des pauvres. Souvenez-vous des pauvres. Pendant toute la Bible, tout le Nouveau Testament, on voit ça. Et d'ailleurs, c'était un ordre qui avait été donné par les apôtres pour toutes les églises, de se souvenir des pauvres. Dernier point, donc je vous ai dit que Dieu recherchait des adorateurs en esprit et en... que la louange, ça impliquait souvent un sacrifice. Et troisièmement, la louange, l'adoration est une puissance et attire la présence de Dieu. Je l'ai cité, psaume 22, verset 3, « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. » La louange est une âme puissante, car lorsqu'on loue Dieu, il manifeste sa présence et les cœurs sont transformés. Les situations changent, les pensées changent, les attitudes changent. Chaque fois qu'on loue Dieu en esprit et en vérité, un changement se produit en nous. Nos vies et nos circonstances sont affectées. Un temps dans la présence de Dieu peut changer ta vie, peut changer nos vies. A changé ma vie, la change régulièrement parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur la présence de Dieu d'il y a 20 ans ou de hier. On a besoin de sa présence tous les jours. Et un exemple que je vais vous citer dans la Bible, pareil, j'aime bien parfois trouver des histoires qu'on entend un peu moins. Est-ce que vous connaissez Obed-Edom ? Qui c'est Obed-Edom ? Obed-Edom, c'est celui, lui et sa famille, qui a eu le privilège d'avoir l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu, donc à l'époque du peuple d'Israël, et qui a eu l'arche de l'Alliance pendant 3 mois chez lui. Parce que je le fais très court, je vous le résume, mais en gros, rappelez-vous, David veut ramener l'arche de l'Alliance, parce qu'il le sait, David. David, c'est un adorateur, il sait que l'arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu en personne, et il dit, waouh, je veux cette présence de Dieu à Jérusalem, chez moi. Et il fait venir cette arche de l'Alliance, mais en ne respectant pas la loi, il le fait. Donc il met cette arche de l'Alliance sur un chariot, alors qu'il était prévu dans la loi que ça devait être porté par 4 lévites sur 2 barres. C'était très précis la façon dont on devait transporter l'arche de l'Alliance. Et parce que David n'écoute pas ou n'obéit pas aux prescriptions de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'histoire. Il y a le chariot qui fait donc un écart, l'arche qui tombe, Uzza qui veut rattraper l'arche et tchac, qui est foudroyé sur place. Et David qui se met en colère, qui dit mais Seigneur, je suis en train de ramener ta présence chez moi et tu foudroies Uzza. Et il vit une injustice et du coup il y a une peur qui s'empare de David qui dit oulala, ça me fait trop peur, je veux pas de cette arche de l'Alliance chez moi. Donc il met l'arche de l'Alliance chez Obed-Edom. Et je vous invite à prendre 1 Chronique 13-13. Facile à retenir. David ne prit pas l'arche chez lui, dans la ville de David, mais il a fait conduire dans la maison d'Obed-Edom, un homme de Gath. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, chez lui. Et qu'est-ce qui se passe quand la présence de Dieu est là? Et l'Éternel bénit sa famille ainsi que tout ce qui lui appartenait. Extraordinaire. L'arche de l'Alliance, qui est la présence de Dieu, est là dans la maison, dans la famille d'Obed-Edom. Et il est béni. Et il est au contact de cette présence. Et nous, aujourd'hui, vous savez que nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que Dieu, il n'a pas besoin d'un temple construit. Ce n'est même pas un temple ici, mais vous savez qu'il n'y a pas besoin d'être dans Connect pour que la présence de Dieu se manifeste. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu veut remplir ce temple. Dieu veut remplir ce temple de sa présence, que tous les jours de nos vies, nous soyons remplis de cette présence. Nous soyons remplis de la présence de Dieu, afin que nous soyons des changeurs d'atmosphère et que nous puissions amener le royaume partout où Dieu nous envoie. C'est extraordinaire. La famille d'Obed-Edom a été bénie. On le vit aussi à Connect. Quand la présence de Dieu est là, tout peut arriver. Nous vous avons vu et nous voyons et nous allons voir des guérisons, des délivrances, des libérations, des demandes de pardon, des réconciliations. Nous sommes encouragés à le vivre chez nous, en famille, au travail, de cultiver la présence de Dieu dans nos vies personnelles, en famille et ici, afin que le monde voit que Christ est Seigneur, de pouvoir rayonner, amener la lumière de Dieu dans ce monde. Et la présence de Dieu, c'est tellement bon, c'est addictif. Franchement, moi, je le dis, vous savez combien j'aime ma chère et tendre, elle est extraordinaire. Mais mes meilleurs moments de ma vie, ce n'est pas avec Elodie. Ouh ! Mais c'est vrai, les amis, il y a le C, c'est dans la présence de Dieu. J'ai jamais vécu, j'ai jamais ressenti, j'ai jamais expérimenté de choses dans ma vie. J'ai 38 ans aujourd'hui, d'aussi bon, d'aussi plein, une plénitude. J'ai jamais vécu ça que quand j'étais dans la présence de Dieu. Où tu es là, tu es juste rempli de son amour, tu baignes dans sa présence, tu sens que c'est tangible autour de toi, comme on peut le sentir un peu là, et tu as juste envie d'être nulle part ailleurs. Je me souviens quand on était en Angleterre, je l'ai déjà témoigné, je crois, mais je sortais du temps de louange et il y avait une vingtaine de personnes qui, dans le hall, étaient en train de louer le Seigneur et j'ai été attiré par ce bruit. Je me suis rapproché et là, d'un coup, je me suis retrouvé, mais comme dans un halo, comme dans, je sais pas, dans, c'était peut-être une sphère de la présence de Dieu où on louait le Seigneur, mais c'était tellement fort. Je vous promets, j'ai cru que j'allais mourir et rejoindre Dieu tellement que c'était puissant. J'avais du mal à contenir cette présence de Dieu, mais c'était tellement bon, tellement bon. Et ça m'a coûté, j'étais fatigué, je me souviens, c'était 11h du soir, mais oh, c'était tellement bon, la présence de Dieu, mais ça nous fait du bien, ça transforme nos vies, et je vous l'ai dit, ça nous amène à la repentance, de dire, mais Seigneur, des fois on se croit grand, on se croit beau, on se croit fort, peut-être que tous on l'est, mais en fait, on n'est que poussière. En fait, si Dieu nous enlève le souffle de vie, en fait, on n'est rien. Sans Dieu, nous sommes rien. Mais avec lui, waouh ! Alors là, tout est possible. Avec lui, on peut faire de grandes choses. Et Dieu, ça lui a plu de nous rendre participants à sa gloire. Alors ne nous privons pas de sa présence. Moi, je ne peux plus vivre un jour sans sa présence. J'en ai besoin tous les jours de ma vie. Et je pense que c'est pareil pour vous. Et Obed-Edom, il a compris ça. Et si vous lisez les chapitres plus loin, je vous inviterai donc à lire chez vous, dans Chroniques 16 particulièrement, vous verrez que verset 4, David institua dans leur service devant le coffre de l'Éternel un certain nombre de Lévites ayant pour fonction d'invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël, de le célébrer et de le louer, la louange et l'adoration. C'était Asaph, leur chef Zacharie, son second, puis Eiel et d'autres personnes. Obed-Edom et Yéel, ils jouaient des instruments de musique, des luttes et des lyres, et Asaph faisait retentir les cymbales. Plus loin, verset 37, pareil, David chargea alors Asaph et les membres de sa famille de se tenir devant le coffre de l'Alliance de l'Éternel pour assurer leur service de manière permanente, suivant les rites prévus pour chaque jour. Il désigna comme portier Obed-Edom. Vous voyez, en fait, Obed-Edom, il a goûté à cette présence de Dieu pendant 3 mois et il ne veut plus être loin de ce coffre. Donc, il fait tout. Donc, on peut imaginer, moi, David, je ne pense pas, mais c'est pour vous dire qu'à mon avis, il n'avait qu'une envie, c'était d'être proche de l'Arche de l'Alliance, que tous ces prêtres, enfin toutes ces personnes qui étaient désignées par David devaient louer, célébrer le Seigneur avec l'Arche de l'Alliance juste à côté. Il a tellement goûté à cette présence qu'il n'a qu'une envie, c'est d'être 24 heures sur 24 dans cette présence. Et quelle grâce aujourd'hui, il n'y a plus cette Arche de l'Alliance, on a carrément le Saint-Esprit lui-même qui est une personne qui est là et qui veut se mouvoir, qui veut remplir le temple que nous sommes. Alors ayons soif les amis, ayons soif de la présence de Dieu. Louer, adorer Dieu, c'est extraordinaire et c'est une arme extraordinaire. Car en déclarant les vérités bibliques, en élevant le nom de Jésus-Christ, une puissance est libérée sur nos vies, dans nos villes, dans nos nations. À chaque fois que nous nous rassemblons pour adorer Dieu, nous préparons le terrain pour aller et moissonner ce que le Seigneur a fait croître. Des nouvelles vies qui se tournent vers Christ, le royaume de Dieu qui est manifesté par son amour, sa paix, sa justice, sa joie, et ça avance jour après jour. C'est à ça que nous sommes appelés, être remplis pour aller là où le Seigneur nous envoie. Il y a tellement d'exemples, je n'ai pas le temps d'en parler, mais je vous invite, vous pouvez l'écrire pour ceux qui prennent des notes dans la Bible, de comment la présence de Dieu amenée par la louange, l'adoration, a changé le cours de l'histoire. Pensez à Jéricho, vous savez, ces murailles qui se sont effondrées au son des trompettes et de louer le Seigneur, car son amour durera toujours. Josaphat, qui a été délivré de milliers et milliers d'ennemis, juste alors qu'il avait placé les chantres et les louangeurs devant qui ont entonné des chants en l'honneur de Dieu, tous les ennemis ont été défaits sans même les attaquer. Et il y a tellement d'autres versets dans 1 Samuel 4, dans 1 Chronique 15, etc. Le Père recherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité, qui sont prêts à faire des sacrifices de louange, de bonne odeur pour lui, conscient que la louange et l'adoration libèrent sa présence et sa puissance pour nous délivrer de tous nos ennemis et transformer le monde. Amen. C'est pour nous ça, frères et sœurs, c'est pour nous, chacun d'entre nous ici. Adorons-le, adorons-le. Je vous invite juste, alors que l'équipe de louange va remonter, on va juste faire passer un chant qui me touche depuis 2 jours, je l'ai en boucle, je le mets en boucle, parce que vraiment, Dieu me parle sur le fait qu'il est saint, c'est en anglais, mais ça dit à chaque fois « holy », dès que vous entendez « holy », ça veut dire « saint », Dieu est saint. Et comme la parole de Dieu nous le dit, il nous appelle à être saints aussi. Alors je vous invite juste, si vous avez à cœur de vous lever, de danser, peu importe, mais en tout cas, ce que je peux juste vous demander de fermer vos yeux, fermer ses yeux, ça se permet vraiment ça permet de se concentrer sur le Seigneur, de faire abstraction de notre voisin, des bruits aux alentours, mais de laisser le Seigneur toucher notre cœur, parce que je sens que c'est ce qu'il veut faire ce matin. Alléluia Seigneur Jésus. Alléluia Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, vraiment, je te...